Bonsoir à tous. Quand les chiffres prouvent que lever le pied sauve des vies, le nombre de morts n'a jamais été aussi peu élevé sur les routes de France et il baisse surtout sur celles limitées à 80 km/h depuis 6 mois. Alors retour à 90 km/h comme le demandent les Gilets jaunes, le gouvernement renvoie la décision au département. France Bleu Isère, de retour sur les ondes malgré l'incendie de la nuit dernière, grâce aux efforts de l'équipe et à l'accueil de France 3 à Grenoble. La PDG de Radio France condamne un acte criminel odieux. Au sommaire également ce soir, un détenu qui se fait la belle pendant un transfert au tribunal de Tarascon. Le patronat qui suspend sa participation à la négociation sur l'assurance chômage. Les présidents Macron et Sissi pas d'accord sur les droits de l'homme. Et le premier livre du reporter écrivain Kapuscinski au cinéma. C'est donc l'équation particulièrement complexe du gouvernement. Comment calmer la colère des Gilets jaunes qui réclament en tête de leurs revendications la fin de la limitation à 80 km/h alors que la mesure porte ses fruits de manière spectaculaire d'après les chiffres officiels. 2018 a été l'année la moins meurtrière de l'histoire sur les routes de France. Bonsoir Julie Pietri.
Bonsoir.
3259 morts en métropole et des vies sauvées d'abord sur les routes secondaires limitées, Julie, à 80 depuis 6 mois.
Oui, moins 189 morts en un an et sur ces 189 vies épargnées, l'Observatoire de la sécurité routière estime que 116 sont liées directement aux 80 km/h mis en place en juillet dernier. Étrillée par des associations comme 40 millions d'automobilistes qui assuraient encore il y a quelques jours que la mesure n'avait rien changé, Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, en appelle à la science. Baisse de la vitesse égale systématiquement diminution du nombre de victimes. En voilà, dit-il, une nouvelle preuve.
Si vous voyez par exemple la chute du nombre de morts à partir du deuxième semestre 2018, il est tout de même difficile de contester cet effet du 80. La statistique d'État, c'est une statistique qui est fiable et qui fait pas toujours plaisir aux décideurs.
Autre conclusion très claire, moins de radars, c'est plus de morts. En novembre et décembre 2018, les radars ont été tagués, cassés, brûlés, près de 60% du parc français. La vitesse sur les routes 80 km/h est repartie à la hausse et avec elle, le nombre de victimes.
En décembre, nous avons constaté une multiplication par 4 des excès de vitesse, puisque les radars ne flashant plus, on passe beaucoup plus vite devant. Et donc moi, j'adresse un message très clair à ceux qui ont ce type de passion, c'est qu'aujourd'hui, nous estimons que c'est environ 60 morts qu'ont causé ces destructions de radars. C'est dramatique et donc il faut que... On s'indigne parce qu'autant jadis, certains se sont permis de dire que les radars ne marchaient pas parce qu'on pouvait pas le prouver. Là maintenant, c'est la preuve par le sang.
Et la réparation de ces radars prend du temps. Les entreprises chargées de leur entretien sont actuellement débordées.
Julie Pietri, merci. 116 vies épargnées depuis juillet sur les routes secondaires à double sens sans séparateur central. Voilà donc le bilan encourageant d'une mesure toujours au stade expérimental et qui a pour objectif de sauver jusqu'à 400 vies par an. Alors, le gouvernement peut-il revenir dessus pour répondre à l'une des principales demande des Gilets jaunes. Édouard Philippe n'a pas tranché ce midi en présentant le bilan routier de l'an dernier.
Les mesures qui ont été mises en place l'année dernière, le 80 km/h, les autres, ont joué leur rôle dans cette diminution. C'est 116 vies qui ont été épargnées depuis le 1er juillet sur le réseau concerné par l'abaissement de la vitesse à 80 km/h. Au cours du mois de février, je ferai connaître département par département les chiffres à chaque président de conseil départemental, parce que c'est les présidents des conseils départementaux qui sont les gestionnaires du réseau sur lequel la décision d'abaisser à 80 km/h la limitation de vitesse s'applique, et que chaque président de conseil départemental pourra réagir et faire part de ses propositions.
Les Français doivent en débattre, mais ils seraient fous de revoir l'ambition de la sécurité routière à la baisse, dit aussi Édouard Philippe au micro de Julie-Marie Lecomte, et il renvoie donc la décision au département. Réponse du centriste François Sauvadet, président du conseil départemental de la Côte d'Or.
Si nous consultent, très bien, ce sera une bonne nouvelle. La main est tendue, je la saisis. Moi, je suis prêt, je l'ai dit, mes services travaillent aujourd'hui. Je suis prêt, dès lundi matin, à travailler avec les services de l'État pour dire quelles sont les zones qui seront à 80, quelles sont celles qui repasseront à 90 km/h. C'est incompréhensible ce qu'il a décidé depuis Paris. Ça n'a aucun sens. Moi, entre Dijon-Beaune, dans mon département, c'est une route qui est très circulée, vous savez combien il y a de changements de vitesse? 42 sur 36 km. C'est là où ça va pas. Donc oui, limitons la vitesse pour des raisons de sécurité routière partout c'est nécessaire. Et non, ne la limitons pas de façon arbitraire vue de Paris, parce que ça c'est perçu comme un coup dans le dos de ceux qui ont besoin de la voiture. On n'est pas des gilets jaunes, on veut travailler avec le gouvernement.
Et chez nos voisins européens, pendant ce temps, eh bien, l'Espagne baisse à partir de demain de 100 à 90 km/h la vitesse sur ses nationales pour réduire le nombre d'accidents. Alors que Berlin garde ses portions d'autoroute sans limitation. Le débat a été tranché aujourd'hui. Pas question d'y mettre des panneaux 130. L'Allemagne est le seul pays de l'Union où il y a des tronçons à vitesse illimitée.
Les Isérois ont retrouvé leur radio locale ce soir.
La station de Radio France, en partie détruite par un incendie la nuit dernière à Grenoble, a émis de nouveau entre 17h30 et 19h depuis un studio de France 3 Alpes, et elle sera de nouveau sur les ondes demain matin pour une matinale spéciale. Voilà donc la réponse des équipes de France Bleu Isère moins de 24 heures après les faits. Et grâce à la solidarité des collègues du service public, la présidente de Radio France, Sybille Veil, était sur place cet après-midi. Elle a pris la parole sur l'antenne.
Je voudrais d'abord commencer par condamner très fermement cet acte, qui est un acte odieux et criminel contre un service public local de la radio, qui depuis 35 ans, quotidiennement, informe les habitants de l'Isère. Les dommages qui sont dans les locaux ne permettront pas de réinvestir ce lieu avant sans doute de longues semaines. Et donc je suis très fière que ce même jour, on ait réussi à reprendre une antenne. C'est la meilleure réponse qu'on peut apporter à ceux qui s'en sont pris cette nuit à notre service public de la radio. Heureusement, il n'y avait personne sur place, sinon les conséquences auraient été encore plus dramatiques. Donc ça m'a semblé important de venir témoigner de toute ma solidarité, de celle de l'ensemble des équipes de Radio France qui se sont senties ce matin touchés dans leur chair en apprenant cet incendie.
La piste criminelle ne fait aucun doute pour le procureur puisque le feu a pris à deux endroits. Mais il n'y a pas de revendication pour l'instant. Nos confrères assurent qu'il n'avait fait l'objet d'aucune menace. Plusieurs incendies volontaires ont eu lieu dans le département depuis deux ans contre des casernes de gendarmerie ou un site EDF par exemple. Tous revendiqués par des sites internet anarchistes. Le ministre de la Culture, Franck Riester, dénonce un acte odieux qui doit être sévèrement puni. Un début d'incendie criminel aussi hier soir à la résidence du sous-préfet de Pontivy dans le Morbihan. Le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Les enquêteurs ont retrouvé des traces d'effraction et plusieurs cocktails Molotov. À Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, c'est un véritable commando qui est passé à l'action ce matin. Deux malfaiteurs armés sont venus faire évader un détenu plusieurs fois condamné qui était escorté par trois agents de l'administration pénitentiaire dans un transfert vers le tribunal. Le prisonnier était arrivé de Béziers. Il est dans la nature. Le plan épervier déclenché n'a pour l'heure rien donné. Sur place, pour Inter, Isabelle Dor.
L'escorte de Lotfi Boussouak est tombée dans une embuscade d'une rare violence. Une escorte forte de trois agents, dont l'un sort pour ouvrir le portail. Et c'est à ce moment-là que deux hommes armés font irruption et le blessent à coups de crosse. Le fourgon tente de repartir, mais les malfrats tirent dessus avec une arme de poing et un fusil d'assaut. Le véhicule est obligé de s'immobiliser et dans l'habitacle, les deux autres agents, sous les tirs, ne peuvent pas répliquer. Peut-être ce type d'escorte n'était pas adapté à ce détenu, avance Jesse Zagouri, délégué régional de Force ouvrière pénitentiaire.
L'escorte 2, c'est une escorte de trois agents armés. Et beaucoup des détenus en France, quasiment la grande majorité, sont escorte 2, c'est-à-dire une escorte normale pour les extractions. Et quand nous voyons le casier judiciaire de ce détenu, nous nous étonnons qu'il ne soit pas justement en escorte 3, en sachant qu'il avait des liens avec le grand banditisme. Ces individus n'ont pas peur de blesser qui que ce soit. Donc les deux agents dans le véhicule, un véhicule n'est pas un lieu où on peut aisément se défendre, surtout que vous êtes à la merci des agents qui vous visent avec une arme lourde.
Âgé de 27 ans, Lotfi Boussouak a déjà été condamné 14 fois, mais il n'est pas considéré comme un homme dangereux et ne faisait pas l'objet d'une surveillance particulière. Tarascon, Isabelle Dor, France Inter.
Il est 18h09 sur France Inter. Le patronat quitte les négociations sur l'assurance chômage.
Participation suspendue des trois organisations MEDEF, CPME et UDP. En attendant une clarification du gouvernement sur les contrats courts, bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Les patrons n'ont pas apprécié les mots d'Emmanuel Macron jeudi soir à Valence, qui s'est dit déterminé à réguler ses contrats courts par le bonus-malus.
Oui, si la promesse n'est pas nouvelle, elle vient tout droit de la campagne présidentielle. La simple évocation du bonus-malus crée pour le moins une véritable tempête chez le patronat qui espérait visiblement échapper à cette taxation des contrats courts, mesure emblématique de la campagne présidentielle, à laquelle Emmanuel Macron semblait avoir officieusement renoncé. Le bonus-malus ne figurait plus officiellement dans la lettre de cadrage de la négociation. Assurance chômage, le patronat imaginait pouvoir y échapper. Mais comment imposer de nouvelles règles, de nouveaux efforts aux demandeurs d'emploi sans demander aux entreprises, elles aussi, de s'adapter? S'insurgeaient depuis plusieurs jours plusieurs députés de la majorité en refixant clairement ce cap du bonus-malus. Emmanuel Macron interfère certes dans la négociation, mais réaffirme son engagement présidentiel, façon de raccrocher avec lui les syndicats, quitte à décevoir le patronat.
Laurent Kramer, les CDD de moins d'un mois, synonyme de précarité, ont été multipliés par 2,5 en 20 ans, soit un surcoût de 2 milliards d'euros pour l'UNEDIC. On l'a connu plus remonté sur le nucléaire. Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, estime que le nucléaire joue un rôle important dans la stratégie énergétique de la France. Et il a co-signé ce matin avec son homologue de l'économie, Bruno Le Maire, un contrat stratégique avec les industriels du secteur. Un document important, Sandy Dauphin, qui fixe le cap d'une filière qui compte 220 000 emplois en France.
La filière nucléaire ne s'attendait peut-être pas à être assurée par le ministre de la Transition écologique, car avant d'être au gouvernement, François de Rugy plaidait en 2017 pour une sortie du nucléaire. Ce matin, il a ménagé la filière tout en rappelant l'objectif de la France, réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité en 2035 et fermer 14 réacteurs. François de Rugy.
Il ne s'agit pas, moi je tiens à le dire très clairement, évidemment, d'une stratégie de sortie du nucléaire. Il s'agit d'un rééquilibrage dans lequel le nucléaire a sa place. Il présente une production totalement décarbonée.
Le contrat stratégique signé ce matin entre le gouvernement et la filière nucléaire concerne la recherche et le développement, le basculement numérique, mais aussi la formation des salariés qui travaillent sur ces sites ultra-sensibles pour éviter une perte de compétences, estime le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
Pour trouver un soudeur dans le secteur nucléaire qui demande une qualification très particulière, des années de formation, aujourd'hui c'est difficile. Même chose dans le domaine de la chaudronnerie. Aujourd'hui, ce qui fragilise le plus la filière nucléaire, c'est le manque de compétences et le manque de qualifications.
Pas d'annonce sur d'éventuelles constructions de nouveaux EPR. EDF fera des propositions en 2021. Mais Bruno Le Maire précise, il faudra que l'EPR de Flamanville ait fait la preuve de son fonctionnement avant d'engager des décisions sur le nouveau nucléaire.
Lui était jusqu'ici assez peu connu en politique. Il est Versaillais, adjoint au maire depuis 10 ans. Il a 33 ans et l'étiquette qu'il regrette de conservateur, opposé à l'IVG, prof de philo. Il sera la tête de liste Les Républicains aux européennes. François-Xavier Bellamy a donc été choisi par le patron du parti, Laurent Wauquiez. Ce sera officiel demain. La vice-présidente de la région Île-de-France, Agnès Evraine, et l'eurodéputé sortant, Arnaud Danjean, seront numéro 2 et 3. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Voilà donc un trio pour rassembler un parti à la dérive.
Oui, avec deux figures centristes du parti pour équilibrer, contrebalancer le choix de François-Xavier Bellamy, qui n'était pas un choix consensuel. Beaucoup de parlementaires, Gérard Larcher en tête, étaient contre. Prendre Agnès Evraine, ancienne porte-parole de Nathalie Kosciusko-Morizet, proche de François Baroin, et l'eurodéputé sortant Arnaud Danjean, ex-soutien d'Alain Juppé, spécialiste des questions de sécurité et de défense. C'est donc satisfaire une partie des LR. Ça me rassure, confie un membre de la direction qui soutient le trio demain lors de la commission nationale d'investiture. Un sénateur salue lui cet arc-en-ciel de sensibilité représentatif de la droite plurielle. Satisfaire une partie des LR et museler les adversaires en interne, notamment Valérie Pécresse, Agnès Evraine étant sa vice-présidente à la région Île-de-France. Valérie Pécresse, dont l'entourage reste circonspect, pas d'enthousiasme sur ce début de liste. On attend de voir les noms des autres candidats éligibles et surtout la ligne politique, car si le trio de tête est pluriel, rien ne prouve que le projet, lui, ne cherchera pas, comme sa tête de liste, à séduire principalement la droite conservatrice et catholique.
Élodie Forêt, l'ancien président François Hollande, entendu comme témoin assisté dans l'enquête sur la mort des deux journalistes de RFI en 2013 au Mali, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. L'ancien patron de la DGSE, Bernard Bajolet, a lui aussi été entendu.
Les droits de l'homme face aux gilets jaunes.
Voilà comment on peut résumer les échanges entre Emmanuel Macron et Abdel Fattah al-Sissi au Caire, deuxième jour de la visite du président français en Égypte. La conférence de presse des deux chefs d'État a essentiellement tourné autour des crises humaines que traverse chaque pays. Envoyé spécial de France Inter au Caire, Bertrand Galichet.
La question sur les droits de l'homme posée par la presse française au numéro 1 égyptien, s'ajoutant à l'intervention sur ce sujet d'Emmanuel Macron, a fortement déplu au président Al-Sisi. Ici, en Égypte, nous ne sommes pas comme en Europe, pas comme aux États-Unis. Nous sommes une région qui a des spécificités, dit-il, en invoquant les défis que le pays doit relever. Une population de plus de 100 millions d'habitants, la menace de l'établissement d'un État religieux et les critiques des blogueurs qui défieraient le gouvernement. Vous ne devez pas nous regarder avec vos yeux d'Européens, ce serait injuste, assène le président Sisi. Une exaspération reprise par un journaliste égyptien qui, à son tour, demande des comptes à Emmanuel Macron sur les droits de l'homme en France face à la crise des Gilets jaunes, ce qui lui vaut une réponse catégorique du président français.
En France, il est permis de s'exprimer librement. C'est la force d'une démocratie. Il y a dans notre pays une liberté qui est constitutionnellement garantie, qui est la liberté de manifester. Je déplore que 11 de nos concitoyens français aient perdu la vie durant cette crise, bien souvent en raison de la bêtise humaine. Mais aucun d'entre eux, aucun, n'a été la victime des forces de l'ordre. Aucun.
Emmanuel Macron qui insiste sur le lien entre stabilité d'un État et le respect des droits de l'homme. Le Caire, Bertrand Galichet, France Inter.
Le bilan n'en finit pas de s'alourdir au Brésil après la rupture d'un barrage vendredi sur une mine de fer du sud-est du pays qui a provoqué un torrent de boue. 60 morts, 292 disparus selon la protection civile. La justice a placé plus de 2 milliards d'euros de la compagnie minière Vale sous séquestre pour couvrir les dommages causés par l'accident. 35 morts, 850 arrestations, bilan d'une semaine de manifestations au Venezuela où deux présidents se disputent le pouvoir, Nicolas Maduro en place et l'autoproclamé Juan Guaido. Caracas vient de dévaluer le bolivar, la monnaie vénézuélienne, de près de 35% pour l'aligner sur le taux du marché noir. Des chiffres encore vertigineux, ceux de plus d'un mois de shutdown aux États-Unis, 11 milliards de dollars, dont 3, Loïc Loury, qui ne pourront pas être récupérés.
11 milliards de dollars perdus en à peine plus d'un mois, voilà le coût du shutdown le plus long de l'histoire, d'après les dernières estimations des services du budget du Congrès américain. Entre fin décembre et fin janvier, des centaines de milliers de fonctionnaires n'ont pas été payés, des musées sont restés fermés et des sous-traitants n'ont pas reçu de commandes. La liste des conséquences du shutdown est longue et le calcul des coûts est compliqué. Mais d'ores et déjà, le Congrès avance donc cette facture de 11 milliards de dollars, dont 3 milliards devraient être définitivement perdus. Les entreprises privées, en effet, ne devraient pas recouvrer leurs pertes. Le reste de l'ardoise, en revanche, pourrait être effacé lorsque les administrations rattraperont leur retard et que les employés enfin payés pourront dépenser leur argent. Pour Donald Trump, voilà donc le coût économique d'une croisade perdu provisoirement face aux démocrates. Le coût politique de ce bras de fer est au moins aussi lourd pour le président. New York, Loïc Loury, France Inter.
On termine avec un journaliste dont tous les reporters ont lu les ouvrages, l'écrivain polonais Richard Kapuscinski. Son premier livre, D'une guerre à l'autre en 76, est adapté au cinéma dans un film d'animation, Another Day of Life, sur les prémices de la guerre en Angola, Corinne Pellissier.
Il voulait être le tout premier journaliste au monde à rendre compte de ce conflit au quotidien. Quand le Polonais Richard Kapuscinski arrive en Angola pour couvrir l'indépendance en 75, il trouve un pays tendu, au bord du chaos. Deux factions qui se disputent l'héritage d'une terre riche en diamants et en pétrole, avec en sous-marin les États-Unis, Cuba et le bloc soviétique. Des affrontements sanglants et fratricides que le Polonais décrira tous les jours pendant 3 mois par téléx envoyé à son agence.
It's 1975. The Vietnam War is over, but the Cold War still rages.
Le désordre et les corps qui s'amoncellent sur la route qui mène au sud, ses doutes aussi autour de l'utilité de son action à la veille d'une guerre qui durera près de 30 ans. L'un des conflits les plus traumatisants que le journaliste n'ait jamais eu à couvrir, il en tirera à son retour un livre de témoignages adapté aujourd'hui au cinéma, un film d'animation osé et surprenant, entrecoupé d'images d'archives et d'interviews en prise de vue réelle. Les survivants de l'époque, les journalistes locaux, les combattants, qui décrivent tous, avec le même effroi, les prémices d'un conflit qui fera plus de 500 000 morts et 1 million de déplacés.
Make sure they won't forget us.
Another Day of Life est en salle depuis mercredi dernier. Et puis les obsèques de Michel Legrand auront lieu vendredi à Paris. D'abord, une cérémonie pour la famille et les proches dans la cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre Nevski, puis l'inhumation au Père-Lachaise dans l'après-midi, où le public pourra saluer une dernière fois le compositeur notamment de la BO d'un été 42.
Allez, Sébastien Paour, merci beaucoup. On se retrouve demain, on reste ensemble, nous, pour le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. Un œil par la fenêtre, tiens.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous ? comment ça va?
Et Jean-Pierre Hameau, de la pluie et du vent à l'ouest.
Oui Fabienne, de nouvelles pluies localement soutenues arrivent sur la façade atlantique demain matin pour gagner toute la moitié ouest du pays en journée. Attention, ces pluies vont se transformer en neige au nord de la Loire en soirée et surtout la nuit suivante. On prévoit en moyenne 10 cm de neige en fin de nuit. Avec l'arrivée de la dépression baptisée Gabriel, le vent serait assez fort le long de la côte atlantique. Il va se renforcer en soirée avec des rafales comprises entre 100 et 130 km par heure. En revanche, prévoyez une journée plus calme sur la moitié est, sous un ciel souvent nuageux. Le soleil sera tout de même de la partie entre la Corse, la région PACA, les Deux-Savoie et la Franche-Comté.
Et sinon, température?
Eh bien, les minimales au lever du jour seront comprises entre moins 3 et 0 degrés dans la moitié nord avec de faibles gelées blanches. Comptez 1 à 7 degrés dans la moitié sud. Les maximales afficheront 3 à 7 degrés dans le nord, le nord-est et le centre-est. Prévoyez 3 degrés à Nancy, Dijon et Lille, 5 dans la capitale ainsi qu'à Lyon. On attend 8 à 13 degrés dans les autres régions avec 8 degrés à Brest, 10 à Bordeaux, 11 à Perpignan et 13 à Nice.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, merci Jean-Pierre.